Je vous invite à ouvrir la parole de Dieu dans le livre des psaumes. Et nous allons lire le psaume 86. Psaume 86. Et voici la parole de Dieu. Prière de David. Éternel, prête l'oreille, exauce-moi, car je suis malheureux et indigent. Garde mon âme, car je suis pieux. Mon Dieu, sauve ton serviteur qui se confie en toi. Aie pitié de moi, Seigneur, car je crie à toi tout le jour. Réjouis l'âme de ton serviteur, car à toi, Seigneur, j'élève mon âme. Car tu es bon, Seigneur, tu pardonnes. Tu es plein d'amour pour tous ceux qui t'invoquent. Éternel, prête l'oreille à ma prière, sois attentif à la voix de mes supplications. Je t'invoque au jour de ma détresse, car tu m'exauces. Nul n'est comme toi parmi les dieux, Seigneur, et rien ne ressemble à tes œuvres. Toutes les nations que tu as faites viendront se prosterner devant ta face, Seigneur, et rendre gloire à ton nom. Car tu es grand, et tu opères des prodiges. Toi seul, tu es Dieu. Enseigne-moi tes voies, ô Éternel. Je marcherai dans ta fidélité. Dispose mon cœur à la crainte de ton nom. Je te louerai de tout mon cœur, Seigneur mon Dieu. Et je glorifierai ton nom à perpétuité. Car ta bonté est grande envers moi. Et tu délivres mon âme du séjour des morts, profond des morts. Ô Dieu, des orgueilleux se sont levés contre moi. Une troupe d'hommes violents en veulent à ma vie. Ils ne portent pas leurs pensées sur toi. Mais toi, Seigneur, tu es un Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité. Tourne vers moi les regards et aie pitié de moi. Donne la force à ton serviteur, sauve le fils de ta servante. Opère un signe en ma faveur, que mes ennemis le voient et soient confus, car tu me secours et tu me consoles, ô Éternel. Et c'est la parole de Dieu. Quand on lit l'histoire de l'Église, on peut lire entre autres au sujet de période du réveil dans l'Église où l'accent est souvent mis sur les prières du peuple de Dieu. Et il y a des fois où j'aimerais pouvoir écouter les prières que Dieu a suscitées, qui étaient déversées devant le trône de la grâce pendant ces périodes, mais on ne lit que des comptes rendus. Par contre, on a les prières de la parole de Dieu. Et ce psaume 86 est un exemple de prière instructive de la part d'un grand homme de Dieu. C'est le seul psaume qui est spécifiquement attribué au roi David dans cette troisième section du psautier, qui va du psaume 73 au psaume 89. Et comme tant de prières de David, ce psaume est le plaidoyer d'une âme qui est effrayée, qui est fatiguée, qui est affligée par de nombreux problèmes. Mais c'est une grande prière. On voit la fermeté avec laquelle David va s'emparer de la miséricorde, de la grâce, de la bonté et de l'amour de Dieu. Il prie au verset 4, « Car à toi, Seigneur, j'élève mon âme. » Au verset 13, « Car ta bonté est grande envers moi. » Mais David commence ce psaume d'une manière qui nous rappelle qu'on doit toujours s'approcher de Dieu d'une manière humble, en tant que pécheur ayant besoin de la grâce de Dieu. C'est le premier point, l'approche humble d'un pécheur devant Dieu. Et le Seigneur Jésus-Christ a souligné cette même réalité dans cette parabole que l'on connaît du pharisien et du publicain. En Luc 18, verset 10 et suivant, par exemple, deux hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien, l'autre publicain. Le pharisien debout priait ainsi en lui-même: Ô Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes, qui sont ravisseurs, injustes, adultères, ou même comme ce publicain. Je jeûne deux fois par semaine, je donne la dîme de tous mes revenus. Le publicain, se tenant en distance, n'osait même pas lever les yeux au ciel, mais il se frappait la poitrine en disant: Ô Dieu, sois apaisé envers moi qui suis un pécheur. Je vous le dis, celui-ci descendit dans sa maison justifié plutôt que l'autre, car quiconque s'élève sera abaissé, et celui qui s'abaisse sera élevé. On pourrait penser qu'il était normal qu'un collecteur d'impôts, pécheur, vienne devant Dieu de manière humble, mais le psaume 86 montre le roi David, un homme selon le cœur de Dieu, qui prie de la même manière. Verset 1. Éternel, prête l'oreille, exauce-moi, car je suis malheureux et indigent. Sans doute que David ressentait son besoin à la lumière des différentes épreuves qu'il faisait face. Peut-être que le psaume 86 a été écrit pendant une de ces nombreuses fois où David fuyait devant le roi Saül, ou alors un autre danger auquel il devait faire face. Mais quand on considère la grandeur de Dieu dans sa toute-puissance, on réalise sans arrêt, tous les jours, on se rend compte qu'on est toujours pauvre et qu'on est toujours nécessiteux. Notre foi n'est soutenue que par la grâce souveraine de Dieu. Et donc on doit toujours s'approcher de Dieu dans l'esprit que David manifeste au début de ce psaume. La personne pieuse réalise non seulement sa position humble devant le Créateur, mais elle voit aussi son besoin comme étant un motif de confiance dans la prière. David s'approche de Dieu comme celui qui pourvoit aux besoins de ceux qui sont pauvres, de celui qui aide celui qui est dans le besoin. Par ailleurs, dans d'autres psaumes, le psaume 12 par exemple, Dieu lui-même proclame, psaume 12 verset 6, « Parce que les malheureux sont opprimés, que les pauvres gémissent, maintenant, dit l'Éternel, je me lève, j'apporte le salut à ceux contre qui l'on souffle. » Et Ésaïe 57 verset 15 identifie aussi l'humilité comme étant la clé de la présence réconfortante de Dieu, car ainsi parle le Très-Haut, dont la demeure est éternelle, dont le nom est saint. J'habite dans les lieux élevés, dans la sainteté, mais je suis avec l'homme contrit et humilié, afin de ranimer les esprits humiliés, afin de ranimer les cœurs contrits. Et dans cet esprit, David fait le lien entre son propre besoin et l'amour de Dieu. Pour ceux qui reconnaissent, pour ceux qui sont reconnaissent leur pauvreté, pour ceux qui sont humbles devant lui. Mais quand on arrive au verset 2, on pourrait penser que David abandonne son humilité. Il dit: Garde mon âme, car je suis pieux. Et la question est de savoir comment on doit interpréter le mot qui est traduit par pieux. D'autres versions disent, par exemple, car je suis fidèle, ou car je te suis attaché. Est-ce que David peut dire cela de lui-même sans être coupable d'orgueil? Et la réponse est oui, parce que David se décrit simplement comme un serviteur sincère, un serviteur qui s'est engagé pour la cause de l'Éternel. Il est évident que David ne se fait pas confiance à sa propre piété. Parce qu'il dit dans la deuxième partie du verset 2, Mon Dieu, sauve ton serviteur qui se confie en toi. Aujourd'hui, David utiliserait le langage du Nouveau Testament. Il dirait: J'ai mis ma confiance dans le Seigneur Jésus-Christ. Je me confie dans le Seigneur Jésus-Christ. Un commentateur dit que c'est l'attitude du chrétien. Il ne peut plaider que de cette façon-là, en s'appuyant sur sa relation qu'il a avec Dieu par le Seigneur Jésus-Christ, en tant que membre du corps de l'Église, en tant que membre du corps de Christ, l'Église. Sauve ton serviteur qui se confie en toi. Mais David continue, verset 3. Il s'approche encore de Dieu comme un pécheur qui a besoin de la grâce de Dieu. Aie pitié de moi, Seigneur, car je crie à toi tout le jour. De la même manière, nous devons venir à Dieu en réalisant sa sainteté parfaite et notre indignité. Aie pitié de moi. C'est pour ça que le Seigneur Jésus-Christ, dans la prière modèle qu'il nous laisse en Matthieu chapitre 6, nous a enseigné à prier « Pardonne-nous nos offenses ». Cela devrait être notre pratique régulière de reconnaître que nous avons besoin de la grâce, de la miséricorde, du pardon de Dieu. Et nous devons l'invoquer à chaque fois que nous nous approchons de lui. L'apôtre Jean nous encourage dans sa première lettre, chapitre 1, verset 9, « Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner, pour nous purifier de toute iniquité. » Quand on vient devant Dieu, quand on s'approche de lui, quand on recherche sa grâce, on regarde vers la croix du Seigneur Jésus-Christ, où nos péchés ont été pardonnés. Nous comptons constamment sur la grâce qui nous est rendue disponible par le sang du Seigneur Jésus-Christ qui a coulé pour nous à Golgotha. On se souvient combien de fois le Seigneur, pendant son ministère sur terre, a prié le Père que Dieu sauve son peuple pécheur. Mais nous pouvons être encore plus confiants que nos prières seront exaucées, puisque nous savons que le Seigneur Jésus-Christ se tient à la droite de son Père, qu'il intercède en notre faveur, comme notre souverain sacrificateur, qu'il présente ses propres mérites, les mérites de son sang, pour notre acceptation. Et dans cette première partie du psaume, David prie en Dieu en énumérant les raisons en lui-même. Il est pauvre, il est humble, il est un serviteur, il fait appel à la grâce de Dieu qui sauve. Verset 4 rajoute que c'est l'appel final basé sur l'engagement de David à ne demander son aide qu'à Dieu. Réjouis l'âme de ton serviteur, car à toi, Seigneur, j'élève mon âme. David ne se contente pas de réciter une prière, mais c'est véritablement l'âme de David qui s'élève devant Dieu. Et si nous faisons de la même chose, nous pouvons être sûrs que Dieu répondra pas dans sa miséricorde. Mais dans cette première partie, cette première strophe, David s'approche de Dieu avec des appels qui sont basés sur sa propre condition. On le voit dans cette répétition de ce petit mot, cette conjonction de coordination, ce mot « car » qui apparaît dans les premiers versets. « L'Éternel, prête l'oreille, exauce-moi, car je suis malheureux. Garde mon âme, car je suis pieux. Aie pitié de moi, car je crie à toi tout le jour. Réjouis l'âme de ton serviteur, car à toi, Seigneur, j'élève mon âme. » Mais dans la deuxième strophe, dans les versets suivants, David va faire appel à des vérités qui concernent Dieu. Et il va utiliser cette même conjonction de coordination. Et c'est un deuxième point. On voit une expression de foi et de louange. Et David, dans les versets 5 à 10, va déclarer à trois reprises des choses au sujet de Dieu. Et encore une fois, en utilisant cette fameuse conjonction de coordination. David s'est humilié devant Dieu. Il va maintenant exprimer sa foi en Dieu afin de lui rendre grâce. Et nos prières devraient suivre cet exemple. Déclarer à Dieu nos motif de confiance en lui. Quand nous passons du temps à l'adorer, à adorer sa grandeur, à adorer sa miséricorde, à adorer sa bonté et sa grâce qu'il nous a manifesté en Jésus-Christ. Et pour ce faire, nous devons d'abord connaître Dieu. Dans son livre Connaître Dieu pour l'adorer, Sinclair Ferguson écrit: Le fondement de l'adoration se situe dans le cœur. L'adoration n'est donc pas du domaine de l'émotion. Entre parenthèses, je me sens poussé à adorer, ou l'ambiance favorise l'adoration. En réalité, l'adoration s'enracine dans la théologie. L'adoration n'est pas une activité que nous fabriquons en nous. C'est une obligation que la découverte de la nature de Dieu nous impose. Et dans le verset 5, David rappelle les attributs de Dieu dans une déclaration éclatante de la fidélité de Dieu à son alliance dans le salut. « Car tu es bon, Seigneur, tu pardonnes, tu es plein d'amour pour tous ceux qui t'invoquent. » David aborde directement les principales raisons pour lesquelles les croyants peuvent avoir confiance quand ils viennent à Dieu dans la prière. Il y a la bonté de Dieu. Il y a la disponibilité de Dieu à pardonner. Il y a sa miséricorde pleine d'amour envers tous ceux qui font partie de cette alliance de grâce. Le principal encouragement dans la prière, c'est de connaître le caractère de Dieu. Et David a appris à connaître Dieu par sa parole et par sa marche avec le Seigneur. Mieux connaître Dieu, mieux il connaît Dieu, et plus il est certain que Dieu est prêt à l'aider dans son besoin. Et c'est une très grande motivation pour nous d'étudier les attributs de Dieu, ses caractéristiques telles qu'elles sont révélées dans sa parole, et de pouvoir marcher avec lui par la foi, de mieux le connaître pour lui faire confiance. David loue par exemple Dieu pour sa bonté. La création elle-même révèle la bonté de Dieu. On vit dans un monde où il y a des saisons, même si les saisons ont tendance à disparaître. Mais la pluie tombe, le soleil brille, les êtres vivants grandissent. Dieu est particulièrement bon pour son peuple. Dieu a délivré son peuple de l'esclavage d'Égypte. Il a placé les tribus dans la terre de la promesse. Il nous a donné sa parole pour que nous puissions connaître la bonté de son cœur. Toutes ces bonnes bénédictions nous motivent, nous donnent une raison de louer Dieu pour sa bonté. Mais non seulement Dieu est bon, mais Dieu pardonne. La bonté de Dieu se transforme en grâce pour des pécheurs. David pouvait sans doute penser à de nombreuses occasions où Dieu a pardonné les péchés de son peuple. Dans le Nouveau Testament, on lit ce don merveilleux que Dieu a fait, le don de son propre Fils, parce qu'il était déterminé à pardonner les péchés de son peuple. Alors que nos péchés nous conseilleraient de garder une distance avec Dieu, le fait de savoir que Dieu est bon, qu'il pardonne en Jésus-Christ, devrait nous inciter à venir, à nous approcher librement de lui. De plus, Dieu est fidèle. David utilise un grand mot de l'Alliance ici, le mot « chesed », un mot qui englobe la bonté, l'amour et la miséricorde souveraine de Dieu pour tous ceux qui viennent à lui par le chemin qu'il a ouvert. Cela nous rappelle que nous ne pouvons nous approcher de Dieu que par le chemin qu'il a donné, à savoir son Fils, notre Seigneur Jésus-Christ. Chaque être humain a le devoir de louer Dieu en tant que créateur. Sa bonté est évidente à tous, même si tous ne veulent pas le reconnaître. Mais le pardon du péché, la miséricorde de Dieu manifestée dans le cadre de l'alliance de grâce ne se trouve que dans le Seigneur, le Sauveur qu'il a fourni. Ceux qui veulent prier à Dieu avec confiance ne peuvent le faire que par la foi en Jésus-Christ. Dieu a pourvu un Sauveur pour réconcilier le monde pécheur avec lui-même. Et c'est par la foi en Jésus-Christ, par sa mort expiatoire, que nous pouvons nous approcher de Dieu. On peut se rappeler et rappeler aux autres, comme le dit le verset 5, que Dieu est plein d'amour pour ceux qui s'approchent de lui. Dans son commentaire, Jean Calvin écrit ceci, il dit que la miséricorde de Dieu est si grande qu'il lui est impossible de rejeter quiconque implore son aide. Et Charles Spurgeon écrit, Dieu ne dispense pas sa miséricorde d'une mince réserve qui éventuellement peut s'appauvrir et ne plus rien donner. Et Dieu déverse les richesses infinies de sa miséricorde d'une corne d'abondance. Sa bonté s'écoule en fleuve débordant vers ceux qui prient et honorent son nom dans l'adoration. Et les versets suivants, les versets 6 à 7, vont suivre cette déclaration et l'appliquent spécifiquement à la question de la prière. Verset 6, Éternel, prête l'oreille à ma prière. Sois attentif à la voix de mes supplications. Je t'invoque au jour de ma détresse, car tu m'exauces. Parce que David a vu que l'Éternel est un Dieu de grâce. Il sait que Dieu va écouter son appel. Et quand il aura besoin de Dieu pour le sauver, il sait que le Seigneur répondra, il sait qu'il le délivrera. Voilà la confiance qui vient aux hommes, aux femmes qui ont pratiqué, si on peut dire, la prière, qui ont acquis de l'expérience avec le Seigneur. Et comme le montrent les psaumes, David a eu une grande expérience avec Dieu dans la prière. Il était souvent dans le besoin. Il reconnaissait qu'il était dans le besoin et il savait que Dieu répond quand il crie à lui. Cela met en avant la valeur des épreuves que Dieu nous permet d'endurer. Ce n'est qu'en ayant besoin de Dieu, qu'en ayant expérimenté sa réponse aux prières, souvent de manière inattendue, que nous gagnons cette confiance que Dieu entend certainement nos prières et que nous pouvons compter sur lui pour qu'il agisse. Et ces pensées conduisent David à louer le Seigneur comme le seul vrai Dieu. Et cela lui donne d'autres raisons pour être confiant. Verset 8, « Nul n'est comme toi parmi les dieux, Seigneur. Rien ne ressemble à tes œuvres. » David a conscience de la tragédie de l'idolâtrie de son époque, quand des foules de gens adoraient les dieux abominables de l'Égypte, les idoles sensuelles de l'Orient. Ces gens priaient, faisaient des sacrifices à ces idoles, mais ils ne connaissaient pas un Dieu qui pouvait les entendre, qui pouvait leur répondre, alors que David a reçu la véritable révélation de Dieu dans sa parole, comme nous l'avons devant nous ce matin. David écrit verset 8, « Rien ne ressemble à tes œuvres. Seul le vrai Dieu est le créateur de toutes choses. Il est le seul rédempteur de son peuple. Les grands actes de salut dans la parole de Dieu, comme l'exode de l'Égypte pour les croyants de l'Ancien Testament, n'ont aucun équivalent dans les récits de l'idolâtrie. Ils n'ont pas de parallèle dans les attentes de l'humanisme laïque d'aujourd'hui. Et de plus, David note que non seulement les nations doivent adorer le Seigneur d'Israël, mais le jour arrive où toutes les nations viendront à ses pieds. Verset 9. Toutes les nations que tu as faites viendront se prosterner devant ta face, Seigneur, et rendront gloire à ton nom. On a ici une anticipation remarquable de la venue du Seigneur Jésus-Christ, du Messie, avec l'Évangile qui se répandra dans le monde entier. Mais au retour du Seigneur Jésus-Christ, tout genou fléchira, toute langue confessera que Jésus-Christ est Seigneur, la gloire de Dieu le Père. Les Juifs de l'Ancien Testament n'ont pas toujours réalisé que Dieu utiliserait leur témoignage pour amener les païens du monde entier au salut. Mais non seulement David le savait, David louait Dieu pour cela. Il en faisait une source de confiance dans ses prières. Comme ceux qui ont appris la venue du Seigneur Jésus dans la parole de Dieu, qui ont expérimenté le salut à travers le témoignage de l'Église, le croyant d'aujourd'hui devrait être désireux de reprendre l'esprit de David dans ses pétitions audacieuses et de prier Dieu pour l'avancement de l'Évangile dans chaque tribu, chaque langue, chaque peuple. Aujourd'hui, on voit des nations qui étaient influencées, qui ont été influencées par l'Évangile, se tourner vers l'idolâtrie, vers le mal. Mais nous savons que ce n'est pas à cause d'une certaine carence en Dieu. Au contraire, on regarde la parole de Dieu et on voit qu'à la fin, le peuple de Dieu se rassemblera de chaque pays, de chaque coin du monde et sera victorieux. L'apôtre Jean écrit en Apocalypse 7, versets 9 à 10, « Je regardais, voici, il y avait une grande foule que personne ne pouvait compter, de toute nation, de toute tribu, de tout peuple, de toute langue. Ils se tenaient devant le trône et devant l'agneau, revêtus de robes blanches, des palmes dans leurs mains. Et ils criaient d'une voix forte en disant, « Le salut est à notre Dieu, qui est assis sur le trône et à l'agneau. » Le Dieu qui a donné, qui a ordonné la victoire à la fin de l'histoire, est sûr d'agir dans l'histoire pour préserver la vie et le témoignage de ce même peuple bien-aimé. Les versets 5 à 7 soulignent que Dieu est prêt à sauver son peuple parce qu'il est bon, parce qu'il pardonne, parce qu'il abonde en amour. Mais les versets 8 à 10 déclarent que Dieu est aussi capable de sauver son peuple. Le verset 10 se réjouit, « Car tu es grand, tu opères des prodiges, toi seul, tu es Dieu. » Le Dieu qui était capable de séparer la mer Rouge pour que le peuple d'Israël la traverse, qui pouvait arrêter le soleil dans le ciel pour permettre à Josué de poursuivre les Cananéens, qui a envoyé son propre fils naître d'une vierge, mais mourir pour nos péchés sur la croix. Ce Dieu est capable de répondre à tous les besoins terrestres et spirituels auxquels on peut faire face. Et voir la combinaison glorieuse de la bonté, de la grandeur, de la volonté et de la capacité de sauver, cela renforce le peuple de Dieu dans sa prière, dans sa confiance. Jean Calvin dit « La contemplation de la gloire de Dieu dans ses œuvres est le véritable moyen d'acquérir une piété authentique. » Dans les versets 1 à 10, on a l'approche humble d'un pécheur devant Dieu et l'expression de foi et de louange. Et ces versets sont préparatoires à la requête de David qui commence au verset 11 et c'est le troisième point. Où l'on trouve un plaidoyer sincère et pieux. Et on peut voir que la première demande de David, sa première demande que son approche, que l'humble approche de David et sa louange pour les attributs de Dieu, on peut voir que l'humilité et la louange que David a apportée n'ont pas été gaspillés. Son humilité, son adoration ont façonné les priorités dans la prière de David. On peut s'imaginer que lorsque David a commencé sa prière, il était consumé par la peur de ses ennemis. Mais il est plutôt animé par la crainte de ses propres péchés et par le désir de se conformer à la volonté de Dieu. Verset 11, « Enseigne-moi tes voies, ô Éternel. » Je marcherai dans ta fidélité. Dispose mon cœur à la crainte de ton nom. Et on voit cette même priorité dans la piété personnelle, sur la piété personnelle que dans l'enseignement du Seigneur Jésus-Christ, sur la prière. Le Seigneur a enseigné aux disciples de prier Dieu comme notre Père. de prier pour que le nom de Dieu soit sanctifié. Et ensuite, dans le modèle, dans la prière modèle, il dit, nous enseigne de prier que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Et David a la même priorité. Il sait que son vrai besoin, que son grand besoin est d'honorer Dieu dans sa vie. De plus, David est conscient qu'il ne peut mener une vie pieuse que si Dieu se présente à lui dans sa parole. « Enseigne-moi tes voies, je marcherai dans ta fidélité. » Maintenant qu'il se souvient de la gloire et de la puissance de Dieu dans le salut, David n'est plus si préoccupé par sa relation avec les ennemis dans le monde, mais il voit sa relation avec Dieu comme étant plus significative. « Enseigne-moi tes voies, ô Éternel. » Il aurait pu continuer à chanter ce cantique qu'on a chanté tout à l'heure avant le message. « Enseigne-moi, Seigneur. Enseigne-moi. Garde mon faible cœur. Enseigne-moi que dans un chemin droit, je marche par la foi, les yeux fixés sur toi. Enseigne-moi. » Plus nous sommes conscients de la bonté, de la grandeur de Dieu, plus ce cantique sera le reflet de nos désirs. La deuxième moitié du verset 11 fait une déclaration instructive. « Dispose mon cœur à la crainte de ton nom. » D'autres versions disent « Accorde-moi un cœur tel qui te craigne sans partage. » Et le terme qui est utilisé, qui est traduit dans notre version par « dispose », est un terme qui contient l'idée de joindre, d'unir. Et David n'est plus aussi préoccupé par les divisions dans le pays qu'il n'est préoccupé par les divisions dans son propre cœur. Il veut que tout son cœur fasse confiance aux promesses du Seigneur et fasse la volonté du Seigneur. Il prie dans un but unique, donner révérence à Dieu. Dispose, unis mon cœur à la crainte de ton nom. L'apôtre Jacques met en garde contre l'homme qui doute de la parole de Dieu. On écrit en Jacques 1, versets 6 et 8, « Celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et d'autre. » C'est un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies. Et Jacques remarque les effets mortels d'un tel cœur quand il s'agit de la prière, qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. Et de la même manière, Moïse a exhorté un cœur sans partage quand il a prononcé ces paroles en Deutéronome 6, versets 4 et 5. « Écoute, Éternel, l'Éternel notre Dieu est le seul Éternel. » Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Le Seigneur Jésus-Christ a insisté sur les mêmes priorités centrées sur Dieu. Quand il dit en Matthieu 6, verset 33, « Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Toutes ces choses vous seront données par-dessus. » Après s'être humilié devant Dieu, après avoir recenser la bonté, la grandeur de Dieu. David demande principalement dans sa prière ce dont les prophètes, les apôtres et le Seigneur Jésus-Christ ont fait l'éloge. Un cœur qui soit sans partage pour Dieu. Il est inévitable qu'une telle prière centrée sur Dieu ajoute immédiatement une requête pour que Dieu soit glorifié. Verset 12. Je te louerai de tout mon cœur, Seigneur mon Dieu. Je glorifierai ton nom à perpétuité. David désire la gloire de Dieu à la lumière des bénédictions du salut de Dieu. Pour lui, verset 13, car ta bonté est grande envers moi. Tu délivres mon âme du séjour profond des morts. David, le roi d'Israël, nous montre que la façon d'avoir un cœur qui désire glorifier Dieu, c'est de se souvenir de sa grâce dans le salut de nos âmes. Et c'est que dans le verset 14 de ce psaume que David arrive enfin à sa prière, à la prière originelle. Ô Dieu, des orgueilleux se sont levés contre moi. Une troupe d'hommes violents en veulent à ma vie. Ils ne portent pas leurs pensées sur toi. Mais remarquez que même ici, David est indigné non seulement sur le danger que ses ennemis portent à sa vie, mais aussi sur leur nature impitoyable, ils sont violents, et surtout sur le fait qu'ils ne donnent pas honneur à Dieu, cet honneur qui lui est dû. Ils ne portent pas leurs pensées sur toi. Et David demande l'intervention de Dieu, verset 16, « Tourne vers moi les regards, aie pitié de moi. Donne la force à ton serviteur, sauve le fils de ta servante. » Intéressant de noter que David ne mentionne pas son propre besoin, non pas seulement son propre besoin en tant que serviteur, mais aussi le besoin de Dieu pour sa mère, qui elle aussi sert le Seigneur. Il est préoccupé par le chagrin de sa mère s'il devait tomber entre les mains de ces hommes violents. Mais David est confiant. Il est confiant de l'intervention de Dieu, étant donné qu'il sait, il a déjà vu les interventions passées dans sa vie. Et le psaume se termine par la recherche de David d'un signe du Seigneur, d'un encouragement pour lui assurer que Dieu a entendu, que son aide est proche. Verset 17. Opère un signe en ma faveur, que mes ennemis le voient et soient confus, car tu me secours et tu me consoles, ô Éternel. Quand on prie avec des croyants qui passent par des moments difficiles, on prie souvent que Dieu agisse même d'une petite manière pour encourager leur foi, une foi chancelante, pour leur apporter l'assurance que Dieu s'occupe d'eux, qu'il prend soin d'eux. Mais en tant que croyants, nous avons bien sûr déjà reçu le plus grand signe, la plus grande assurance de la faveur de Dieu, le don de son Fils, pour porter nos péchés, pour prendre nos péchés sur lui à la croix de Golgotha. Et on regarde cette croix avec joie, comme la plus grande preuve que Dieu, comme le dit le psalmiste, nous a secourus, il nous a consolés. À la lumière de l'œuvre que le Seigneur a accomplie pour nous à la croix, on sait que nos ennemis, ceux qui ne se tournent pas vers l'Éternel, seront humiliés s'ils restent endurcis au retour de Jésus-Christ. Que dire pour terminer? Cette prière de David est un modèle pour notre propre intercession. Le psalmiste nous donne de bons conseils en venant humblement devant Dieu en tant que pécheurs, demandant, reconnaissant que nous avons besoin de la grâce de Dieu, louant Dieu pour sa bonté, pour son pardon, pour son amour, pour sa gloire. Et on voit l'impact que cette préparation a eu sur les pétitions que David apporte. En réfléchissant à ce qu'il sait de la miséricorde, de la fidélité, de la grâce de Dieu, David s'est élevé d'un état spirituel faible pour maintenant prier avec puissance, avec effet. Mais la plus grande leçon qu'on voit de David dans ce psaume, c'est la conscience que la prière est une rencontre du peuple de Dieu avec son Rédempteur plein de grâce, plein de gloire. Si rien d'autre ne se passe dans la prière, si rien d'autre ne résulte de la prière, quelque chose de la plus grande importance s'est produite quand nous avons mis notre cœur, déversé notre cœur devant le Seigneur avec adoration, avec louange pour contempler sa gloire. Et on voit la vraie, la grande question de la prière de David dans cette déclaration au verset 15. Mais toi, Seigneur, tu es un Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité. Et si on pense avoir déjà entendu ces paroles, On sait que c'était la réponse de Dieu à Moïse. Quand Moïse a fait cette grande demande en Exode 33, verset 18, fais-moi voir ta gloire. La question principale dans la prière, le grand désir qui devrait être dans nos cœurs, c'est communier dans la foi avec le Dieu de grâce, être conscient de sa gloire. Et on sait que Dieu a répondu à Moïse, à la prière de Moïse, en le plaçant dans une fente du rocher, où il serait en sécurité quand le Seigneur passerait devant lui. Et là, Moïse a entendu ces paroles. Exode 34, verset 6. L'Éternel, Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité. Dans chaque contexte, dans chaque besoin, face au monde, face à ses fausses gloires, face aux tentations de ce monde, notre plus grand besoin est de connaître le Seigneur. On le connaît par sa parole. Cette connaissance donne de la substance à nos prières. Et Dieu voudrait que l'on le connaisse aussi dans nos cœurs. Quand on cherche son visage dans la prière, Dieu, comme il a été dit tout à l'heure, fait pâlir les choses, les affaires de ce monde pour qu'elles deviennent insignifiantes à nos yeux. Il fait apparaître la connaissance de sa gloire, celle du Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité, comme étant une connaissance suffisante pour répondre à tous nos besoins. Merveilleuse prière de David que nous avons dans la parole de Dieu. Un exemple pour nous, que Dieu nous aide, qu'il nous aide à méditer sur ces choses, qu'il nous aide à nous inspirer de l'exemple que David nous laisse dans sa prière pour alimenter aussi nos prières. Et que Dieu bénisse sa parole à nos cœurs. Amen.